Sarkozy, il va te privatiser la gueule. Et il te faudra même payer pour te regarder dans la glace.
Alors la grève de la SNCF ce matin, selon France Inter. Beaucoup de Français vont donc arriver en retard au bureau ce matin. Mais nom de Dieu, tout le monde travaille pas dans un bureau. Alors déjà, c'était le parisianisme. Maintenant, il va falloir arrêter vos stéréotypes de merde. Il y en a ras-le-bol d'entendre des conneries pareilles.
Je m'appelle Rachel et j'habite dans une petite cité à la périphérie de Nantes. Dernièrement, on nous a bassinés sur la misère financière exacte et intellectuelle à voir des banlieues. Je voudrais t'alerter à propos d'une autre misère intellectuelle qui sévit de façon encore plus récurrente en d'autres lieux. Ce sont les médias, bassin de l'inculture crasse. Des personnes y usurpent le titre de journaliste et n'ont pas dépassé le niveau maternel. Tu sais, les classes où les mômes en apprentissage de lecture ne savent pas au juste comment on forme les mots et apprennent les textes par cœur. Eh bien là, c'est pareil. Les grands, ils récitent ce que leur dicte leur maître. Alors, je veux bien comprendre que France Inter, Radio d'État, est tenue d'avoir des emplois réservés, mais intellectuellement, ce n'est pas très stimulant d'entendre tout, presque toujours le même son de cloche. N'y aurait-il pas possibilité de leur trouver une autre occupation? C'est à propos des vilains grévistes et des pauvres usagers. Et d'ailleurs, si les gens étaient moins individuels, égoïstes et feignants, ils iraient voir leurs voisins, les sites internet, pour ceux qui l'ont. Pour s'organiser en covoiturage, ils prendraient leur vélo pour aller au boulot. Mais non, chacun pour sa pomme, c'est toujours la faute des autres. Quand je fais grève, on m'enlève une journée de salaire brut sur mon salaire net. Je paye deux fois mes cotisations. Pour ce qui est de la peur de la privatisation, ils ont raison les cheminots. À la poste, tout a été sectorisé. Depuis Belle Lurette, les colis, le courrier, les CCP. Janvier 2006, transformation des CCP en banque postale. Pas besoin d'entrer en bourse pour une privatisation. Enfin, tous les acquis sociaux dont nous bénéficions, c'est grâce aux grèves, entre autres, de nos ascendants. S'ils n'avaient pas lutté, nous en serions encore au temps du servage. Mais pour ce qui est de la servilité aux puissants, il en est qui en connaissent un rayon. Allez, ciao. Et vive les cheminots, les traminots marseillais. Vous êtes l'honneur des travailleurs.
Oui, bonjour, c'est Paquita, j'appelle de Guadeloupe. Je viens d'écouter l'émission sur les brigades internationales. Je suis très émue parce que... j'ai mon grand-père qui était républicain, j'ai ma mère qui était pendant la guerre d'Espagne et qui, pour s'en sortir, a dû voler des œufs, manger, elle a connu sa manger de l'herbe et des racines, elle a connu sa première paire de chaussures à 11 ans. Et je voulais remercier, je trouve très bien de remercier ces gens qui ont servi cette espèce d'idéal, quoi, comme M. Arthur Fregli dit, qui est peut-être encore un rêve, mais je le partage et je le remercie aussi de s'être engagé. Et je suis aussi, malfois, aussi genevoise, et du coup, je suis fière d'être genevoise et suisse, que je suis, quand je vois qu'il y a des personnes comme lui. Et puis aussi son Julien Appiot, que je remercie sans l'avoir connu. Et j'aurai toujours beaucoup d'émotions en mangeant des garrenzos con bacalao. Et merci Daniel Mermet. À bientôt.
J'ai lu ce week-end un entretien de Alain Finkielkraut accordé au quotidien de centre-gauche à Aretz, en Israël. J'ai pas vu ses propos repris ou commentés dans la presse pourtant j'aimerais beaucoup qu'ils soient diffusés. Alors je passe sur le discours de philosophe maltraité qui ne peut pas s'exprimer en France sinon il se retrouvera en prison, etc. Je vais juste citer deux extraits. Alors maintenant on enseigne l'histoire coloniale comme si elle était exclusivement négative. On n'enseigne plus que le projet colonial avait aussi pour but d'éduquer, d'apporter la civilisation aux sauvages. On n'en parle plus que comme d'une tentative d'exploitation, de domination et de pillage. Deuxième extrait. Mon père est revenu d'Auschwitz en France. Ce pays mérite notre haine. Ce qu'il a fait à mes parents est bien plus violent que ce qu'il a fait aux Africains. Qu'a-t-il fait aux Africains? Il ne leur a fait que du bien. Voilà, le reste est à l'avenant et c'est vraiment navrant. C'était François de Grenoble.
Et oui, en effet, il semble qu'il n'y ait pas que l'académicienne Hélène Carrère d'en cause qui nous ait fait des incontinences dans les médias russes. Notre philosophe Alain Finkielkraut, lui aussi, s'est un petit peu lâché dans le Haaretz, le quotidien israélien. C'est ce dont parle cet auditeur. Et c'est effectivement tout à fait étonnant. Et les journalistes du Haaretz qui ont interrogé Alain Finkielkraut eux-mêmes étaient tout à fait surpris. Le titre de leur papier, c'est « Ils ne sont pas malheureux, ils sont musulmans ». Vous avez compris que c'est au sujet des violences urbaines, comme on dit. Et c'est le titre qu'ils ont donné à ce papier. Mais il dit d'abord leur étonnement des propos tenus par... Alain Finkielkraut, où ils disent ces propos n'émanent pas du Front National, mais de la bouche d'un philosophe qu'on considérait autrefois comme l'un des porte-parole de la gauche française, etc., etc. Effectivement, c'est tout à fait étonnant. Il semble que lorsque nos intellectuels, enfin nos leaders d'opinion, ceux qui fabriquent l'opinion, lorsqu'ils parlent à l'étranger, enfin sur des médias étrangers, ben il y a un effet comme ça de pression qui fait que les sphincters ont tendance à se relâcher. Et on va en avoir la preuve à travers cet entretien fait par une télévision américaine, un journaliste d'une télévision américaine qui interroge Monsieur Patrick Balkany, qui est député maire UMP de Levallois-Perret. Écoutez, c'est un document.
Quand on se balade à Paris, c'est beau, c'est si français. Dans les villes américaines, les pauvres sont partout, ce n'est pas très beau, c'est le bazar. Comment est-ce que vous avez réussi à inciter les pauvres à quitter les centres-villes pour aller vivre en banlieue ?
Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Bien sûr, il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi de vivre en marge de la société. Et même cela, croyez-moi, on s'en occupe. Il y a des foyers d'accueil parce que en hiver, en France aussi, il fait froid et il n'est pas question de laisser dehors les gens qui sont dans la misère. Donc nous leur donnons des asiles, on leur donne à manger, on les lave, on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Mais ce sont des gens relativement rares qui ont décidé une fois pour toutes qu'ils étaient en marge de la société, qu'ils voulaient pas travailler ou qu'ils avaient été rejetés par la société.
Voilà les propos tenus par Monsieur Balkany, Patrick Balkany, à une mystérieuse chaîne de télévision américaine qui s'appelle en fait Politics Prime et qui est une chaîne absolument bidon qui a été imaginée par les Yes Men. Vous vous souvenez des Yes Men? Eh bien voilà une de leurs impostures. Il suffit d'appeler de loin un personnage important, un élu, un intellectuel ou une intellectuelle, et de leur demander de parler à des étrangers. Vous avez vu comment, quand on parle à des Américains, il faut articuler, bien leur parler fort pour qu'ils comprennent. C'est vrai, c'est des pays qui sont lointains, il faut donc bien articuler, puis c'est des gens qui ne comprennent pas, et voilà, il faut leur faire comprendre. Voilà, donc je reviens un petit peu sur cet entretien d'Alain Finkielkraut, la vision qu'il a de ces violences urbaines, c'est ils ne sont pas malheureux, ils sont musulmans. Il s'étend longuement sur le racisme. Il dit dans cet entretien au Haaretz, je cite, on nous dit que l'équipe de France est adorée par tous parce qu'elle est black blanc beurre. En fait, aujourd'hui, elle est black black black, ce qui fait ricaner toute l'Europe. Point. Si on fait une telle remarque en France, on va en prison. Et puis il y a d'autres réflexions sur l'Occident, sur l'Afrique, sur les Noirs. Il insiste très souvent sur les Noirs. Et la spécificité de l'Occident, dit-il, pour tout ce qui concerne l'esclavage, c'est justement tout ce qui concerne son abolition. L'abolition de l'esclavage est une question européenne et américaine. Cette vérité-là sur l'esclavage, il est maintenant interdit de l'enseigner dans les écoles. Alors, il nous a semblé urgent à destination d'Alain Finkielkraut, mais pas seulement, de revenir sur l'esclavage, sur l'histoire coloniale, à travers la chanson. On a beaucoup parlé du rap. Est-ce que le rap était porteur de violence, ou au contraire, est-ce que le rap raconte cette violence? Est-ce que le rap a été capable de décrire les angoisses sociales, les souffrances, ou au contraire, est-ce que le rap suscite et suggère la violence et l'émeute? Ben, c'est sans doute tout ça à la fois. Toujours est-il que dans la chanson, il y a beaucoup de choses, il y a des idées qui passent et des idées qui se reflètent. C'est le cas évidemment avec la chanson. Et la chanson coloniale, quel rapport y a-t-il eu entre l'histoire coloniale et la chanson? C'est une question que se sont posées deux éminents historiens, Claude et Josette Liozu, que nous retrouvons aujourd'hui sur ce thème des liens entre l'histoire de la chanson coloniale et de notre beau pays.
Bonjour, c'est Françoise de Paris. Pour un message en deux points. Le premier, c'est pour parler du Café Repère qui s'est passé samedi dernier et dire que nous avons à nouveau parlé des banlieues et qu'en fin de réunion, on s'est dit que ce serait quand même bien plus intéressant de parler des banlieues en banlieue. Enfin, surtout avec les gens qui vivent là et qui le vivent. Parce que nous, malgré tout, on est de l'autre côté du périph', vous voyez. On n'a pas du tout la même vision des choses. Donc, on se demandait pourquoi pas un Café Repère à Montfermeil ou à Gagny. Mais c'est pas nous, Parisiens, qu'allons faire un Café Repère en banlieue, ce serait idiot. Donc voilà, on s'est dit qu'on pourrait lancer un appel sur le répondeur, ce qui est fait. Et deuxième chose, à propos de la SNCF, j'entends aujourd'hui la droite qui dit que c'est pas vrai, il n'y a pas de privatisation ni prévue ni faite. Et je voudrais juste faire un petit témoignage, c'est qu'il y a déjà 3-4 ans, je suis rentrée à la SNCF à la recherche des ingénieurs informaticiens prestataires, qui sont des gens de sociétés privées qui travaillent en prestation dans la SNCF. Et qui sont extrêmement nombreux, et que toutes ces sociétés, justement, forment. Enfin, c'est pas de la privatisation directe, mais il faut qu'ils arrêtent de dire que c'est pas vrai, qu'ils n'ont pas commencé à externaliser plein de choses. C'est commencé depuis très longtemps. Voilà. Alors, comme d'habitude, c'est du bourrage de crâne. Faut pas marcher. C'est comme le reste. C'est que du mensonge. Voilà. Merci. À bientôt.
Voilà, c'est Brigitte. J'appelle de Lorraine. Je réagis en bondissant au message qu'on a entendu tout à l'heure, cette dame qui s'autorise à nous refuser, nous les socialistes, de chanter l'International. Je voudrais simplement lui rappeler que plus de 50% des ouvriers votent actuellement pour le Front National et qu'au Parti Socialiste, nous avons une grosse partie d'ouvriers également. Et ça veut dire quoi, la gauche caviar? Moi, j'en ai ras-le-bol qu'on me traite de bobo, qu'on me traite de gauche caviar, parce que je suis au PS. Moi, je suis au PS, j'en suis fière. Et je suis très fière de chanter l'International avec mes camarades, en début, en milieu ou en fin de congrès, ou au cours de grandes fêtes ou de dîners républicains. Ras-le-bol, j'en ai marre de ce mépris. Je ne mérite en aucun cas le mépris de cette personne. En aucun cas. Je milite, je fais tout ce que je peux pour faire avancer les choses, et il y en a marre du mépris des autres. Moi, je ne veux plus qu'on me méprise parce que je suis socialiste. Ciao, c'est Brigitte, donc j'appelais de Moselle. Au revoir.
Salut Daniel Mermet et toute l'équipe, c'est Bernard de La Rochelle. Bah, moi, je suis artisan, je bosse toute la journée, j'écoute les infos sur France Inter, j'écoute France Inter, et le soir quand je rentre, je me tape le journal sur la 3 parce que c'est les heures qui me correspondent. Et puis voilà, qu'est-ce que j'apprends? Qu'au Pakistan, ils continuent de crever la dalle, quoi. Alors, toutes vos petites grèves, tout ça, bon, c'est bien, mais ça sera bien que vous fassiez une émission pour penser à ces gens-là. Allez, continuez.
Le pauvre. Carrefour est obligé de licencier 1200 personnes. Le Carrefour, c'est le premier, c'est le numéro un mondial plutôt de l'agroalimentaire, le numéro un mondial, des milliards de bénéfices. Mais il doit licencier 1200 personnes pour rester compétitif. C'est comme ça qu'on nous annonce la sauce ce matin sur France Culture. À côté, Olivier Pastret nous annonce qu'il y a 7 millions de pauvres en France. Eh ouais. Mais comme a dit mon grand-père, ça risque de péter là ces jours-ci. Le paysan, Philippe.
Dans le département de la Haute-Saône, encore plus méconnu que la Creuse, il existe un très bel endroit, le plateau des Mille Étangs, et il y en a vraiment mille, où il fait très bon vivre au sud des Vosges. Des intérêts privés, des généreux carriers, veulent faire un trou dans le paysage en arasant une de nos montagnes. Une association sauvegarde du plateau des Mille Étangs et de la Haute-Vallée de l'Ognon s'est créée et se bat de toutes ses forces. Nous organisons samedi 26 novembre, à 14h, une randonnée-manifestation pour nous opposer à ce projet insensé. Rendez-vous à la sortie de Ternuay direction Servance à 14h. Amitié à toute l'équipe de là-bas si j'y suis, des Hauts-de-Saônois combatifs.
L'administration française s'est efforcée de donner aux indigènes le goût du travail en le leur facilitant. Des charrues et des graines sont mises gratuitement à leur disposition.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Claude et Josette Liozu, quand on chantait les colonies.
Flight number 2, arriving from New York.
La France honore l'histoire des peuples qu'elle protège.
La loi, chantée par Aristide Brouillon. Noire et fille du canton qui se fout du camp d'Iretron. La noire et fille du canton qui se fout du camp d'Iretron. Nous nous foutons de ses vertus, puisque la laisse est au pointu. Voilà pourquoi nous la chantons, vive la noire. Voilà pourquoi nous la chantons, vive la noire et ses tétons. La noire n'est qu'un seul amant qui s'appelle le régiment. La noire n'est qu'un seul amant qui s'appelle le régiment. Et le régiment le sait bien, la noire a remplacé le chien. Voilà pourquoi nous la chantons, vive la noire. Voilà pourquoi nous la chantons, vive la noire et ses tétons. Jurons sur ses appôts que Bismarck n'y touchera pas. Frères, jurons sur ses appôts que Bismarck n'y touchera pas. Pour elle, à l'ombre du drapeau, nous nous ferons graver la peau. Voilà pourquoi nous la chantons, vive la Loire. Voilà pourquoi nous la chantons, vive la Loire et ses tétons.
La Noire, chanson d'Aristide de Bruant. La Noire, dit Aristide Bruant, n'a qu'un seul amant qui s'appelle le régiment, et le régiment le sait bien, la Noire a remplacé le chien. Alors, on rigole, tous en chœur, on reprend gaieté populacière, cordeur du régiment, képi blanc de la coloniale, belle époque, bon enfant. Qui eût cru, il y a un siècle, qu'une chanson comme celle-ci serait un jour un délit, incitation à la haine raciale? Et oui, la Noire n'a qu'un seul amant qui s'appelle le régiment, et le régiment le sait bien, la Noire a remplacé le chien, c'est aujourd'hui une incitation à la haine raciale. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi a-t-on chanté cela? Eh bien, penser le passé pour faire du maintenant, pour se refaire un futur. Mais comment et qui nous raconte l'histoire? Que faut-il retenir? Qu'est-ce qui fait événement?
les virages, les sommets, les boulevards, les impasses de notre histoire, qui en fait le tracé? Avec quelles idées, arrières idées, quels projets et dans quel intérêt? Eh bien, c'est la même question que celle qu'on se pose sur la façon dont fonctionne notre quotidienne fabrique de l'opinion. Entre l'histoire et l'histoire immédiate, entre l'info à chaud et le passé recomposé, c'est la même question qui revient. Qui conduit le manège? Aujourd'hui, on le sait, pour nous, l'important, c'est l'information, le budget, la bourse, le social, l'économie. Tout ça est très sérieux. Et puis, après le sérieux, eh bien, on passe une petite chanson, un peu de musique, on se détend. Eh bien, c'est précisément là, si on regarde d'une certaine façon, comme Claude et Josette Lyosul l'ont fait, c'est là qu'on peut voir, alors qu'on ne s'y attend pas, alors qu'on est dans la candeur, on est dans le bon enfant, on est dans la bonne humeur, c'est là que passent les grandes idées dominantes. En tout cas, la façon dont des historiens comme Alain Ruscio ou Claude et Josette Lyosul ont épluché, interrogé, regardé de très près à la loupe la chanson coloniale de 1830 à nos jours, eh bien, témoigne de ce phénomène de l'idéologie dominante qui passe à travers la chanson. La chanson comme miroir de l'histoire, la chanson comme véhicule des idées, la chanson coloniale aujourd'hui.
Serrant un mince crayon entre ses gros doigts noirs et puissants, Mamadou, caporal des tirailleurs sénégalais, penche la tête et lentement, avec un énorme effort d'application, reproduit les mots écrits au tableau noir. Ce bon nègre, souriant et doux, n'a point débuté dans l'art d'écrire en traçant des bâtons comme nos tout-petits de l'école maternelle. Pas davantage, il n'a épelé sur un rythme chantant, ni scandé en syllabant. Il a lu les mots eux-mêmes, en s'efforçant de reproduire vocalement les sons entendus tout autant que les pleins et les déliés sur sa feuille de cahier. D'ailleurs, les mots et les phrases qu'il est appelé à lire ou à écrire sont toujours d'une parfaite simplicité et proches de la réalité. Les sens et l'imagination concourent ainsi spontanément avec l'écriture et l'articulation à la plénitude de la possession du langage. Mamadou, comme nombre de ses congénères, suit les cours de la Ligue pour l'instruction des indigènes, fondée par Madame Morel Chailly. Gageons que son engagement terminé, lorsqu'il regagnera son village dans la brousse, Mamadou rapportera, avec le souvenir de notre civilisation, la connaissance écrite et parlée de notre langue. C'est pour nous le plus sûr moyen de pénétration qui soit, et pour lui, celui non moins certain, de nous comprendre et de nous aimer chaque jour davantage.
Alors on sourit amèrement de ces propagandes qui étaient celles du cinéma dans les années 30, exactement 31, lors de l'exposition coloniale. On sourit, mais est-ce que on ne sourira pas dans combien 70 ans de ce qu'on entend aujourd'hui sur nos antennes, dans nos informations, dans nos reportages, sans doute qu'on rigolera aussi de cette émission. En tout cas, on voit que la machine à faire de l'opinion, la machine à faire passer l'idéologie dans les molles de cervelle, eh bien là, marchait à plein tube. De quelle façon ? Il y a cette façon directe, celle de la propagande. Il y a celle aussi plus subtile, plus fine, plus insipide de la chanson. Aujourd'hui, la chanson, c'est peu de choses, mais quand ça se pose au creux d'une oreille, ça fait pas grand-chose, en fait, la chanson. Or, on va voir que si. On va voir qu'à notre insu, à l'insu de notre plein gré, eh bien, la chanson véhicule énormément de choses. D'ailleurs, un certain nombre de pouvoirs, si on prend la période qui nous intéresse, c'est-à-dire la période coloniale qu'on va faire commencer en 1830 jusqu'à 1962, mais aussi avec des séquelles jusqu'à nos jours, eh bien, on voit que les pouvoirs savaient très bien le poids et l'importance de la chanson, au point que à divers moments, il y a eu des censures. Il y avait dans les goguettes, ces endroits où on faisait de la chanson au siècle dernier, eh bien, des inspecteurs. Et ici, sur cette radio qui nous est chère, il n'y a pas si longtemps, dans les années 50-60, il y avait des comités d'écoute qui avaient pour charge, eh bien, de choisir, de sélectionner certaines chansons et évidemment pas d'autres. C'est ainsi que longtemps Brassens fut interdit d'antenne ou cantonné à des heures avancées de la nuit. Alors, la chanson coloniale, qui est véhicule d'idéologie et reflet petit miroir, comme ça, de l'histoire, eh bien, voilà quelque chose qui a intéressé des historiens comme Josette et Claude Liozu. Ils ont interrogé ces chansons, ligne par ligne, vers par vers, mélodie par mélodie, et en historien, on pourrait dire en scientifique, ils en extraient la substantifique moelle.
Voilà. Ça fait pleurer Margot ou rire Bidas, mais c'est peut-être pas considéré comme suffisamment sérieux. Et l'idée du bouquin, vous l'avez dit, c'était de considérer que la chanson était une fenêtre, comme on dit en géologie, un moyen de mieux connaître la société française, la culture coloniale dans la société française. Et c'est très important aujourd'hui, 40 ans après la fin de la guerre d'Algérie, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, c'est très important de mieux comprendre quelle a été la place et la part de la colonisation dans notre culture, quels en sont les héritages.
Est-ce qu'on peut dire qu'on a beaucoup chanté la colonie ?
On a beaucoup tout chanté en France, hein, bien sûr. La colonisation aussi, et c'est un domaine qui n'avait pas été étudié avant que Ruscio et nous-mêmes nous y intéressions. On a tout chanté en France, on peut compter des milliers de titres. On avait voulu faire un jeu de mots avec mille et une chansons coloniales, mais en fait il y en a beaucoup plus que mille et une. Il y en a des milliers.
Josette, vous n'avez pas écouté tout ça. Vous avez lu les milliers de chansons ?
Oui.
Ah bon ?
Ah oui ?
Lu et chanté ?
Ah, pas chanté, parce que parfois il n'y a que le texte, et quelquefois la partition, mais la plupart du temps c'est le texte.
Où est-ce que vous avez trouvé ça dans les archives ?
Aux archives nationales, essentiellement, où il y a des cartons donc qui n'ont jamais été dépouillés, qui sont en cours de traitement depuis un an à peu près. Et puis aux archives de la préfecture de police de Paris, puisque pendant la première guerre, il y avait une censure, et c'était la préfecture de police qui délivrait une autorisation pour la diffusion d'une chanson.
Vous allez courir à Vissolélo, beauté indigène.
L'enfant indigène apprend à travailler et à s'instruire. On lui apprend aussi à s'amuser, selon des conceptions plus saines. La tâche n'est pas facile, car l'instinct est profond. Au premier relâchement de l'éducateur, les souvenirs encore tout récents de la vie primitive reprennent le dessus. La gymnastique rythmique redevient la danse obsédante de la brousse.
Alors la chanson au temps des colonies, que la France était belle au temps des colonies, c'est le titre du livre d'Alain Ruscio. Lui c'est chez Maisonneuve et La Rose, anthologie de chansons coloniales et exotiques et françaises. Ah oui, l'exotisme c'est très important. Vous savez que tout ça a été le tourisme d'aujourd'hui qui nous envoie, qui nous expédie aux quatre coins du monde, les clichés, les rêveries, les plaisirs, eh bien tout ça, c'est pure et simple invention qui date de cette époque du début du 19e siècle où le tourisme a été d'ailleurs inventé par nos voisins anglais. Et puis tous ces clichés ont été produits, fabriqués par ces années du début de la colonisation tout au cours du 19e siècle jusqu'à, on va dire, l'exposition coloniale de 1931 comme l'apogée de cette aventure. Et la chanson française évidemment a suivi et parfois a précédé, en tous les cas témoigne de cette aventure historique. Claude Liozu, on va écouter des chansons, donc vous allez faire des commentaires au fur et à mesure sur les chansons qu'on a mises de côté, mais il faudrait quand même peut-être situer un peu l'aventure coloniale. Alors évidemment, en quelques mots, c'est pas facile.
Mais l'aventure coloniale, on peut considérer qu'elle commence très tôt avec la découverte de l'Amérique. Alors on va aller vite, bien sûr, mais il y a des épisodes très forts, il y a les conquêtes de l'époque moderne, il y a l'abolition de l'esclavage en 1794 et en 1848, Il y a bien sûr la conquête de l'Algérie qui commence en 1830, et progressivement au XIXe siècle, précisément au moment où on commence à avoir des enregistrements, les chansons sont très pénétrées par la mentalité, par la psychologie impérialiste. L'époque de l'impérialisme, comme on l'appelle, elle se situe à la fin du XIXe siècle, dans les années, à partir des années 1880, puisque la Tunisie, l'Égypte sont partagées entre la France et la Grande-Bretagne en 1882, l'Indochine, la France met la main dessus, l'Afrique noire est partagée à l'occasion d'une ruée, comme on dit, sur l'Afrique avant 1914. La grande époque de l'impérialisme colonial, c'est la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle.
Jusqu'à 1931 avec l'exposition coloniale.
C'est un an après le centenaire de l'Algérie, comme on disait à l'époque, parce qu'on oubliait que l'Algérie existait avant 1830. C'est le cinquantenaire de la conquête de la Tunisie en 1931. Et c'est alors la grande, grande exposition coloniale qui a eu des millions de spectateurs, de visiteurs. On s'est considéré comme le moment de l'apogée. Et c'est aussi le début de la fin. Les coloniaux les plus lucides, il y en a eu, des gens comme Lyoté, par exemple, considèrent que le temps du reflux est arrivé en 1931. Et ça se sent d'ailleurs dans la chanson. Par la suite, on entre dans la période de décolonisation.
Alors, on va commencer par la première chanson qu'on a mis de côté. C'est une chanson qui a été écrite en 1889 et qui s'appelle « Baraki Barako ». Pourquoi vous l'avez choisie ?
Parce que c'est une chanson qui est enregistrée.
Elle a été enregistrée plus tard. Hein.
Oui, mais le fait qu'elle ait survécu montre qu'elle a une certaine audience. Et je pense qu'elle est représentative d'une certaine veine coloniale dans la chanson française.
Baraki Barako, chanté par Codieux de la Scala, 10 Afghan. Quand j'étais troupier en Afrique, dans la chambre et nous révoltions, et quoi que pas très fort en musique, voilà le refrain que nous chantions. Baraki, Barako, Boubari, Boubaro, grimpe, grimpe, kif, kif à la criquette, Baraki, Barako, Boubari, Boubaro, kif, kif à la criquette des Bourricots. Me trouvant à l'infirmerie, un matin l'infirmier me dit, pour faire passer ta maladie, je sais qu'il te faut mon ami. Là-dessus, il s'approche de mon lit avec une mitrailleuse à soupape et une tise en plein dans le. Baraki, Barako, Poukari, Poukaro, Grimpe, Grimpe, Tif, Tif, la criquette, Baraki, Barako, Poukari, Poukaro, Tif, Tif, Allah, criquette de Bourrico. Je courtisais d'une femme divine, j'avais des enfants bien sculptés, mais les reliefs de sa poitrine étaient moins durs que des pavés. Qui fait que lorsqu'elle courait, ça faisait. Et Baraki, Barako, Boubari, Boubaro, Grimpe, Grimpe, au plus qui fait la criquette, Baraki, Barako, Boubari, Boubaro, qui fait la criquette des bourricots. Nos députés pour se faire élire, promettent la mer et ses poissons. Une fois nommés, y a de quoi rire, leurs promesses deviennent des chansons. En effet, que donne-t-il quand ils sont au pouvoir? Baraki, Barako, Boubari, Boubaro, Grimpe, Grimpe, Tif, Tif, à la criquette, Baraki, Barako, Boubari, Boubaro, Tif, Tif, à la criquette des bourricots.
Donc l'extrait est suffisamment représentatif, le son n'est pas très bon et les paroles ne sont pas des alexandrins. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a là le mélange de plusieurs ingrédients qui font la cuisine de la chanson coloniale. Le comique troupier, ça paye bien sûr, et alors on aura toute une série de chansons qui reviennent là-dessus, les campagnes d'Afrique, et puis un comique qui repose, alors qui est très fréquent, et qui est difficilement supportable aujourd'hui parce qu'il véhicule beaucoup de racisme, c'est le comique sur le vocabulaire. Baraki, Baraka, Bourrico, Allah, etc., ça revient constamment. Même si on n'est pas très croyant, si on n'est pas musulman, le fait de jouer, de faire des jeux de mots avec le nom de Allah ne peut que choquer. C'est très fréquent à l'époque. Alors, c'est une veine du comique, vous savez. Le barbare, c'est celui qui pose des borborygmes pour les Grecs, celui qui ne parle pas une belle langue, et le noir parle le petit nègre, etc. Ça a un effet comique assuré. Dans la chanson, il y a un petit plus. C'est l'antiparlementarisme qui est bien porté dans l'anarchisme de droite en France. Il y a une série d'ingrédients qui font que la chanson a réussi à passer les décennies.
Il y a aussi quelque chose, peut-être d'enfantin dans ce genre de chanson. Est-ce qu'on peut soupçonner tout de suite, il n'y a pas une volonté de répandre des idées racistes?
Non, je crois que c'est un racisme qui va de soi. C'est une conception, c'est une vision inégalitaire des races. Vous savez, dans Le Tour de la France par deux enfants, qui a été un best-seller,
qui était un livre
sérieux
d'école.
Oui.
Qui a eu des vous Josette qui avait enseigné dans le secondaire, qui était vraiment le livre du début de la de l'école.
Et qui des rééditions multiples.
Voilà.
Jusque dans les années 40.
Oui.
Et un livre qui a forgé toute une idéologie, enfin tout un appareil idéologique,
patriotique, puisque c'est l'histoire de deux gamins d'Alsace-Lorraine qui choisissent la France après la défaite de 1870. Et dans ce livre, on nous présente les quatre races humaines. On en comptait quatre à l'époque, et on nous dit que la race blanche est la plus parfaite, bien sûr, et que la race noire a les bras très longs, ce qui est très commode pour cueillir pour planter le coton, pour cueillir les fruits, etc. Donc c'est un racisme qui va de soi. Il peut prendre des formes virulentes, il peut prendre des formes paternalistes, comme on le voit par exemple dans Yabon Banania.
Par la suite,
comique. Mais c'est de bon ton de rire sur la façon dont l'autre parle. C'est une veine comique qui n'est pas terminée. Mais là, ça joue bien sûr sur les onomatopées selon lesquelles les Arabes sont censés s'exprimer.
Maintenant, si j'ai su vous plaire, avec leurs freins les plus malins, j'ose espérer que vous allez faire avec vos pieds, avec vos mains. Paraki, parako, paré, poufalo, grabi, grabo, kipsi, pala, griquette, paraki, parako, poufali, poufalo, kipsi, pala, griquette et morico.
C'est pas une volonté délibérée, en effet, de promouvoir un racisme. Il va de soi, et c'est un racisme de bonne conscience, bon enfant le plus souvent, sauf quand le colonisé résiste, c'est-à-dire fait front à nos armées, là il peut y avoir des réactions beaucoup plus violentes.
Il y en a qui font la mauvaise tête au régiment, qui tirent au cul, qui font la bête inutilement. Quand ils veulent plus faire l'exercice et tout le fourbi, on les envoie faire leur service. Happy Ribi, Happy Ribi. Happy Ribi, c'est en Afrique où que le plus fort est obligé de poser sa chic et de faire le mort, ou que le plus malade désespère de faire chibi, car on peut jamais se faire la paire. Happy Ribi, Happy Ribi.
C'est le grand Bruant.
Alors ça c'est 1891, c'est Bruant. Et c'est terrible, parce qu'il a ce talent extraordinaire de charger chaque mot de sens, il sait faire sonner chaque mot, chaque image. Il parle dans l'argot de l'époque.
Alors, biribi, c'est de l'argot. On ne connaît pas l'origine du mot. Je m'y étais intéressé, j'avais fait une petite étude en Afrique du Nord pour essayer de retrouver biribi. S'il n'y a pas un lieu, c'est comme l'Atlantide, il n'y a pas un lieu qui est biribi. C'est de l'argot militaire, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. En tout cas, on sait ce que c'est. Les biribis sont des compagnies de discipline qui ont été créées, d'ailleurs, au moment de la conquête de l'Algérie, et destinées non pas aux marlous, aux truands, aux maquereaux, etc., aux délinquants, donc destinées aux fortes têtes, aux indisciplinés. Il faut le souligner parce que l'image de biribis s'est déformée avec le temps. À l'origine, biribis, c'est un instrument de répression purement militaire qui a des proportions énormes. On a oublié qu'il y avait des 10% des soldats français qui étaient sanctionnés au 19e siècle. On l'a complètement oublié, et biribi entre dans cette catégorie. Darien a fait un roman admirable, autobiographique, qui s'appelle Biribi.
Ah, mais bien sûr.
Georges Adrien.
Bien sûr.
Et il a rencontré là-bas le général Boulanger, donc des grandes figures de l'histoire de France.
On oublie Darien, hein, c'est un
grand. On oublie Darien, c'est un homme admirable, il a fait Le Voleur, alors on a fait un film sur Le Voleur, on a fait un film sur biribi, malheureusement il est passé inaperçu, mais un des premiers à avoir dénoncé biribi, et en connaissance de cause, c'est Darien. Alors, ça a eu, la chanson de Bruant est la preuve du grand impact du bagne militaire, avant Bruant, du bagne lui-même dans la chanson, dans l'opinion française, dans l'opinion ouvrière.
Mais s'il fallait mater ces hommes, c'est qu'ils résistaient, ils s'opposaient.
C'est l'envers du décor colonial, c'est non pas l'héroïsme du soldat français, c'est pas non plus le comique troupier, c'est la réalité sinistre de la répression militaire, qui, je le répète, qui a été énorme. On le sait pour Dreyfus. Vous savez que les tribunaux militaires ont été supprimés que dans les comme 19, après 1981, quand la gauche est arrivée au pouvoir. Donc, pendant très longtemps, les tribunaux militaires avaient la haute main sur les soldats et la répression.
Y compris les appelés.
Et d'abord les appelés. C'est pour eux que cette justice militaire a été mise en place. C'est pour eux que tout un train de institutionnel, de prison, de bagne, de compagnie disciplinaire, d'infanterie légère ont été mis en place parce que on l'a oublié et on l'a oublié jusqu'à la guerre d'Algérie. Et ceux qui ont fait la guerre d'Algérie l'ont oublié, alors que ce sont souvent les descendants de protestataires, de déserteurs, d'insoumis, de réfractaires ou de fortes têtes. Il y a eu une très forte résistance à la conscription dans le monde paysan français, et mais aussi dans le monde ouvrier. Et cela, au moins jusqu'en 1914. 1914 marquerait une grande rupture. Mais il y a le fait réel de Biribi, c'est un très grand scandale en 1910 qui suit la mort sous la torture d'un appelé, comme on dit, d'un soldat du contingent, qui, dans le sud tunisien, est assassiné par les officiers, les sous-officiers qui manient la trique. Et il a été enterré, alors c'est un ouvrier, ce n'est pas un délinquant, c'est un militant d'un syndicat du bâtiment, et ses obsèques ont mobilisé 20 000 manifestants. Il est enterré au Père-Lachaise, il s'appelait Rousset. Et ça a été une affaire très connue, mais qu'on a oublié encore une fois à la veille de la Première Guerre mondiale. Il y a tout un pan d'histoire de l'antimilitarisme français qu'on voit surgir à l'époque de la conquête du Rif, à l'époque de la conquête du Maroc, qu'on voit aussi réapparaître pendant la guerre d'Algérie, mais ce pan a été largement occulté. Par exemple, quelqu'un comme Gaston Couté a fait une chanson sur Biribi peu avant sa mort.
Ce dont la chanson de Bruant témoigne, c'est de la dureté, la cruauté, et nous renvoie au constat concernant la torture, c'est que on limite aujourd'hui la torture à l'épisode 56-62 pour ce qui concerne l'Algérie. En fait, la torture a été une pratique continuelle au cours de toute cette colonisation.
Et les colonies étaient bien commodes parce qu'on était loin des yeux, loin de la métropole, loin de l'état de droit. Et d'ailleurs, les fameux mutins du 17e, qui ont refusé de lever les armes contre les vignerons Languedoc, se sont retrouvés à Biribi. Se sont retrouvés dans le sud de la Tunisie, et Montéus a fait une chanson connue, et Gaston Couté aussi l'a repris. Il y a donc toute une histoire de la répression militaire, de la violence militaire à l'usage de la société française, qui est importante et qui trouve souvent ses points d'appui dans la colonisation. Et très souvent, malheureusement, la critique de la colonisation n'a retenu que l'aspect bagne. Il n'y a pas que ça à critiquer, mais dans le mouvement ouvrier français en particulier, on a retenu l'image de la colonie associée au bagne. Il y a bien d'autres choses. En tout cas, ça a été un point fort de la critique de la colonisation.
À Biribi, c'est là qu'on marche, au pont flanger, marche à Oukri, en avant, marche. Faut marcher, et quand on veut faire des effets, c'est possible, on vous fout les fers aux quatre fêtes, à Biribi, à Biribi. À Biribi, c'est là qu'on crève de soif et de faim, c'est là qu'il faut marner sans trêve jusqu'à la fin. Ce soir, on pense à la famille sous le fourbi. On pleure encore quand on roupille. Happy Ribi, Happy Ribi. Happy Ribi, c'est là qu'on râle. On râle en russe. La nuit, on entend hurler le mal. J'aurais pas cru qu'un jour, il serait forcé de connaître Mademoiselle Bibi. Car tôt ou tard, il faut en être à Biribi, à Biribi.
Alors la Bruant, il y a des phrases superbes, hein. On pleure encore quand on dort, hein, c'est ça. Et là, il y a l'allusion, le râle en rut, et Mamselle Bibi, il fait évidemment allusion à l'homosexualité, que connaissent les hommes dans des conditions pareilles.
Ce qui est très souvent voilé à propos de la colonisation. C'est un thème qui est un thème tabou, parce que le colonisateur doit être viril, et donc l'homosexualité étant associée à l'opposé de la virilité, c'est très rare de voir des références comme celle-là. Il y en a quelques-unes. La Bruant le met en avant, et il rappelle aussi que Biribi, c'est encore pire que la Nouvelle-Calédonie. Ça montre que Biribi, Nouvelle-Calédonie, Guyane et quelques autres exemples, les colonies ont été des dépotoirs de la société française destinés à entasser ceux dont la société française voulait se débarrasser, se purger.
On est sauvage, lâche et féroce, quand on en revient, par hasard, on fait un gosse, on se souvient, on aimerait mieux, quand on se rappelle qu'on a subi, voir son enfant à la nouvelle, Kabiribi, Kabiribi.
Ce qui est formidable avec votre travail, c'est que ces chansons qui prétendent elles-mêmes être peu de choses, en fait, disent tout ça. Vous n'êtes pas en train d'extrapoler à partir des chansons. C'est bel et bien à l'intérieur des chansons que tout ça existe. Et il n'y a pas de filtre idéologique par rapport à ça. Il n'y a pas de critique. Enfin, là, vous avez parlé, Josette a parlé de la censure qui pouvait exister. Mais en règle générale, toujours aujourd'hui, on passe des chansons, puis voilà, quoi. Et en fait, les chansons sont porteuses d'une doxa, enfin, d'une idéologie, de beaucoup plus de choses qu'on ne suppose.
C'est évident, oui. C'est évident. Et si on parle de chansons populaires, ça a une raison d'être, bien sûr. Et la chanson est intéressante parce qu'elle dit et parce qu'elle ne dit pas. Parce que, bien entendu, sur l'Algérie, si on entend en parler, il y aura un silence total. Enfin, on fait un saut dans le temps très important. Il y a des choses que la chanson ne dit pas ou dit très peu. Et des chansons comme celle de Biribi, chez Bruant, qui est un auteur très populaire, il y en a quand même très peu.
Oui, Josette.
Oui, non, je voulais dire aussi que la chanson, par exemple, pendant tout le 19e siècle, elle tient lieu de presse. On chante au coin des rues.
Ah oui, voilà.
Et donc, on chante les aussi. Événements.
Oui.
Le bey vient en visite en France, on fait une chanson. Le chat visite le zoo, le chat de père visite le zoo, on fait une chanson. C'est-à-dire que tous les événements sont traduits par des chansons.
Comment elle se répand la chanson? On n'a pas la radio, il n'y a pas le disque. Alors on la chante au coin des rues et le bon peuple reprend en cœur.
Alors il y a les livrets,
oui.
D'abord, bon, on la chante au coin des rues, il y a les compagnons. Qui diffusent la chanson, parce que dans tout leur voyage, ils...
Les compagnons du Tour de France,
oui,
c'est pas les compagnons de la chanson.
Oui, bien sûr, oui. Qui diffusent la chanson. Ouais. Et c'est comme ça que la chanson, finalement, se répand.
C'est pour ça que c'est si simple. Là, on est avec Bruant. On peut reprendre en chœur tout de suite.
Oui.
C'est-à-dire que si on a noté les paroles ou si on sait lire, il y a un procédé qui fait qu'on chante en chœur, on répète, on achète le format. C'était ça les chanteurs de rue.
Oui.
Piaf a commencé comme ça, dit-on. Elle commençait, il y avait un accordéoniste, elle chantait et puis on vendait les paroles et puis les gens partaient. En essayant de se souvenir de l'air avec les paroles, c'était aussi simple que ça.
Oui, mais d'autant plus que jusqu'au milieu du 19e siècle, jusqu'au moment de la création de la SACEM, il n'y a pas de mélodie composée pour une chanson. On utilise ce qu'on appelle des timbres. Les timbres, c'est-à-dire de vieilles chansons, de vieux airs que tout le monde connaît. Et donc, il peut y avoir plusieurs chansons sur le même timbre. Donc, les gens connaissent déjà l'air et... On colle des paroles sur cet air qui est un air ancien.
Autant qu'un je suis parti. Oh, quelle beauté, mes dames, quel paradis des petites femmes. Elles sont belles et fidèles, et je suis de l'île chérie. Une petite femme du pays qui s'appelle Mélaoli. Je suis
café d'une petite. C'est une nana, c'est une nana, une nanabite. Elle est vive, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tanguini, ma tanguini, ma tanguinoise. Il y en a d'autres qui font les soucis, mais c'est elle que j'aime le mieux. On cause d'un tas de choses avant de se mettre au pieu. J'apprends la géographie, de la Chine et de la Mandchourie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Il y a même l'amour, c'est curieux, car ose l'empire du milieu. Je suis gavé d'une petite, c'est une anette, c'est une anette, une anémite. Elle est vive, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tanguini, ma tanguini, ma tanguinoise. Il y en a d'autres qui font les outilleux, mais c'est elle que j'aime le mieux.
C'est superbe, ça. C'est une des plus célèbres et qu'on fredonne toujours aujourd'hui avec, il y a même l'amour et l'empire du milieu. Il apprend la géographie, notre ami, là. Oui. Et l'amour, effectivement, c'est un grand fleuve, qui traverse la Russie, l'empire du milieu, la Chine, la Mandchourie. Et elle s'appelle Melaoli. Alors, ça, c'est une polka. Elle date de 1906 et c'est la conquête du Tonkin.
Alors, l'histoire, la chanson a une histoire, en fait. C'est que Vincent Scotto la propose à Paulin, qui était un des grands chanteurs populaires, sous un nom qui est le El Navigator. Et Paulin n'est pas tout à fait satisfait, donc il demande à Vincent Scotto de garder l'air, mais il fait réécrire les paroles là-dessus. Et ça devient de El Navigator, ça devient donc la petite tonkinoise. Alors la petite tonkinoise, elle date de 1906, mais en fait son grand succès, c'est plutôt avec la reprise par Josephine Baker dans les années 30. Et à ce moment-là, Claude connaît mieux l'histoire que moi à partir de là, donc il va vous dire
le relais.
Claude. Alors, la petite tonkinoise, c'est tout à fait représentatif de la vision de la femme colonisée. Hein, alors elle est tonkinoise, elle pourrait être africaine, elle pourrait être soudanaise, etc. Et les colonies sont des paradis pour les hommes blancs, c'est évident. Et le thème de la tonkinoise, c'est le soldat au Tonkin, qui, pendant son séjour, prend femme, qui s'appelle Melaoli, c'est tout un programme, et quand il repart, eh ben, après avoir beaucoup joué avec elle, il la laisse, et il réintègre ses pénates. Donc c'est tout à fait représentatif de la réalité, d'abord, bien sûr.
Mais tout passe, et tout casse, en France je dus rentrer. J'avais le cœur plein de tristesse, de quitter ma chère maîtresse. Là mon père, ma petite reine, était plus m'accompagner. Mais avant de nous séparer, je lui dis dans un baiser. Ne pleure pas si je te quitte, petite Anna, petite Anna, petite Anna, petite Anna. Tu m'as donné ta jeunesse, ton amour et tes caresses. Je t'appelais ma petite bourgeoise, ma tanguini, ma tanguini, ma tanguinoise. Dans mon cœur je garderai toujours le souvenir de nos amours.
Voilà quelques échos de chansons coloniales. Merci à Josette et Claude Liozu. À écouter ce soir jusqu'à jeudi 24 novembre, concert de Ignatius à l'espace GEMAP, 116 quai de GEMAP, dans le 10e arrondissement de Paris, à 20h30. Et jusqu'au 27 novembre, la CIMAD présente Regards croisés sur l'immigration, avec des expositions, projections de documentaires, débats et contes à Toulouse. Pour tout renseignement, toulouse@cimad.org. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, notamment les repères des amis de Là-bas si j'y suis,
le mercredi à 20h. C'est à Brest, le Café de la Plage, 32 rue Massillon. C'est là que se retrouvent les amis de la base. Si j'y suis, j'en signalerai de nouveau dans les jours qui viennent. Technique aujourd'hui, Ludivine Caron et Stéphane Devernay. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Le, Pascal Yellow et de Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37 et le mail de l'émission c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Pub.